Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Serge Haroche.
Bonjour.
Physicien, prix Nobel 2012 pour vos travaux en physique quantique, professeur honoraire au Collège de France, vous publiez chez Odile Jacob La lumière révélée, la lumière qui a été le fil conducteur majeur des grandes découvertes. Vous avez passé votre vie à en étudier les secrets, on va y venir. Mais votre livre est aussi une ode à la curiosité, à la passion de la recherche, à la science. La science qui a occupé cette année tout le devant de la scène, qui a produit des avancées d'une rapidité inédite pour faire reculer la pandémie et qui fait l'objet d'une défiance sans précédent de la part des Français. Perte de crédit de la parole scientifique, refus des vaccins. Quel regard portez-vous sur cette année exceptionnelle ?
Je porte un regard un peu étonné. Le fait que la science est attaquée, que les contre-vérités, ce qu'on appelle les fake news, les théories du complot se sont développées au cours des dernières années, c'était arrivé avant la crise du Covid. Mais ça a été amplifié par cette crise, parce que je pense que les angoisses liées à la crise, les incertitudes que les gens ressentent, le sentiment d'inquiétude nourrit ce genre de situation, nourrit cette incompréhension, nourrit ce doute pernicieux qui est en fait un dévoiement du doute de la science. La science se pose des questions, la science compare des observations à des théories, s'arrange toujours pour modifier les théories lorsque les faits montrent qu'il faut le faire, mais il s'agit là d'un doute rationnel. Alors que le doute auquel on assiste est un doute irrationnel, c'est le doute des complotistes et c'est contre cela, je pense, qu'il faut lutter. Et là, ce qui se passe actuellement au niveau des vaccins est une illustration de cette situation. Bien qu'il y ait des inquiétudes, des questions légitimes, c'est également parasité par beaucoup d'attitudes qui font partie de ces théories du complot.
Deux chiffres tirés d'un sondage Ipsos réalisé fin octobre pour l'Institut Sapiens. 54% des Français se méfient des innovations technologiques, 43% pensent que recherche et innovation produisent plus de mal que de bien. Que répondre à cela, Serge Haroche ?
C'est triste et aberrant, parce que tous les instruments qui nous ont permis de dominer la situation actuellement, de dominer le monde, d'acquérir sur le monde des moyens d'action absolument incroyables, qui est absolument imprévu et inimaginable il y a une cinquantaine d'années, eh bien, on le doit à la science. Qu'il s'agisse du GPS, du traitement des images par résonance magnétique qui permet de voir l'intérieur du corps avec une précision extraordinaire, qu'il s'agisse des lasers qui permettent de lire des disques CD et DVD et de faire de la chirurgie et des tas de choses qu'on ne pouvait pas imaginer, tout cela, on le doit à la science. Et donc les gens utilisent tous les jours ces instruments extraordinaires et en même temps ils dénigrent la science et il y a une espèce de déconnexion entre les faits réels et ce à quoi on doit la science. Et on le retrouve également dans le cadre de la crise du Covid. Le fait qu'on est arrivé à mettre au point des vaccins en l'espace d'un an, on le doit à une recherche scientifique au cours des 15 dernières années qui était une recherche fondamentale sur l'ARN en particulier. Et tout ça, on le doit à la science et en même temps, celle-ci est l'objet de critiques et d'une méfiance qu'il faut essayer d'expliquer. Je pense qu'il faut... Il y a des origines sociologiques, psychologiques qui m'échappent.
Et peut-être éducatives aussi. Est-ce que ça tient au manque de culture scientifique des Français, souligné par les mêmes études ?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très inquiétant. Ça a été signalé par une étude qui vient d'être publiée sur le niveau en mathématiques des jeunes Français.
Qui sont les plus mauvais élèves des pays développés.
Oui. Et je pense qu'effectivement, la seule réponse à toutes ces question, c'est toujours plus d'éducation et plus d'éducation scientifique. Et il faut que la population, que les gens, même ceux qui ne font pas de science ensuite, aient une idée de ce qu'est la démarche scientifique. Et j'irai même plus loin, ça va jusqu'au niveau des gouvernants. La France est un pays assez particulier, qui est le pays dans lequel les gens qui accèdent aux responsabilités gouvernementales ont, dans l'immense majorité, très peu de connaissances, se sont jamais frottés vraiment à la science. Si on compare ça, par exemple, à ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple...
Pensez à l'Allemagne, j'imagine.
Madame Merkel, oui, mais je pense aussi à des pays d'Extrême-Orient. En Chine, c'est loin d'être une démocratie, mais dans les instances dirigeantes, il y a beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de gens qui ont l'idée de ce qu'est la science, ce qui n'est pas le cas chez nous.
Angela Merkel qui... formation de physicienne, qui a publié d'ailleurs des travaux de recherche en physique et qui a parlé aussi en scientifique. Hier matin, à la tribune du Bundestag, elle a expliqué que les vérités scientifiques étaient là, même si on pouvait avoir des doutes ou débattre d'autres choses.
Et c'était le cas de Margaret Thatcher, bien qu'elle ait, je pense, fait des choses qui étaient une politique qui n'était pas favorable à la science. C'était une scientifique, elle savait de quoi il s'agissait.
Les petits Français sont des cancres, mais la France est le 4e pays du monde en nombre de Nobel, de prix Nobel. Oui. Vous en êtes un exemple, Serge Haroche, même si notre dernier prix Nobel, Emmanuel Charpentier, a fait ses recherches à l'étranger, notre pays est désormais incapable de garder de tels talents ou de les faire revenir ?
Je ne dirais pas incapable, mais ça devient de plus en plus difficile, parce que les conditions qui sont faites aux chercheurs à l'étranger sont incomparablement meilleures, en général, à ce à quoi ils peuvent s'attendre en France. Les crédits qui sont alloués aux jeunes chercheurs en particulier sont beaucoup plus élevés dans certains pays étrangers. En France, on ne donne pas d'argent au départ aux chercheurs, et dès le début, ils sont obligés d'émarger à des contrats spécifiques, des contrats qui ont un but bien précis et dont la philosophie est contraire à la recherche fondamentale, qui doit être une recherche ambitieuse à risque, dans laquelle on doit permettre aux jeunes de se lancer sans leur demander d'obtenir des résultats rapidement. Et donc, je pense que c'est ce qui est arrivé à Emmanuel Charpentier. Il est très difficile de la faire revenir maintenant, étant donné les conditions dans lesquelles elle peut travailler à l'étranger.
Maintenant, c'est trop tard. Oui. Dans votre livre « La lumière révélée », Serge Haroche, vous racontez votre éveil, votre curiosité pour ce monde vu comme quelque chose de riche et d'étrange, votre fascination pour le nombre Pi, que vous admirez d'abord au Palais de la Découverte, la façon dont collégiens vous calculiez la vitesse de Spoutnik en 57. Vous racontez vos travaux, vous nous expliquez la lumière et ce que la physique quantique nous a apporté. L'étrangeté quantique, dites-vous dans le titre de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement pourquoi ça nous paraît étrange et contre-intuitif ?
Ça paraît étrange. Enfin, dire que la physique quantique est contre-intuitive, c'est quelque chose qui est très répandu. C'est tout simplement parce que les lois auxquelles obéit la matière et la lumière au niveau microscopique sont des lois qui sont très différentes de celles qu'on observe dans le monde qui nous entoure. Un objet quantique comme un atome peut être à plusieurs endroits à la fois, dans une superposition d'états qui n'a pas d'équivalent classique. De la même façon, un photon, un grain de lumière peut à la fois être là, avoir été émis par un atome ou ne pas avoir été émis. Et ce sont ces superpositions étranges qu'il faut comprendre. D'abord, qu'il faut être capable de manipuler, de construire et d'étudier, et peut-être un jour utiliser pour des applications pratiques. Donc c'est étrange parce qu'on n'en a pas l'intuition, parce que notre cerveau qui s'est formé au cours de l'évolution darwinienne est là pour comprendre des phénomènes du monde macroscopique, mais n'a pas été formé pour comprendre ce qui se passe au niveau des atomes. En tant qu'individu, on n'a pas davantage évolutionniste à comprendre la physique quantique. Peut-être que ça viendra un jour, mais ce n'est pas encore le cas.
Ouais, vous avez cité tout à l'heure les applications technologiques de ces lumières visibles et invisibles, des objets issus de la physique quantique, laser, GPS, IRM, horloge atomique. Et demain, beaucoup de choses encore ?
Oui, demain peut-être des instruments qu'on appelle l'information quantique, peut-être un jour des ordinateurs qui calculeront de façon beaucoup plus rapide et efficace que les ordinateurs actuels, des moyens de communication secrètes qui seront plus inviolables que les moyens qu'on utilise actuellement, des méthodes de mesure beaucoup plus précises lorsqu'il s'agira de sonder des phénomènes au niveau microscopique. C'est tout ça ce qu'on appelle l'information quantique. C'est un domaine de recherche dans lequel beaucoup d'argent est investi dans tous les pays du monde, au niveau européen, en Chine, aux États-Unis. Ce sont les espoirs qu'on met ce qu'on appelle l'information quantique. Je pense que ce qu'on observera sera inattendu. On aura des surprises parce que c'est toujours produit en science. C'est très difficile d'extrapoler ce qu'on va avoir dans le futur.
Mais c'est un futur décennies.
Ça dépend de quoi on parle. L'amélioration des méthodes de mesure, le fait qu'on a maintenant des horloges qui sont précises, qui donnent le temps avec une précision de l'ordre d'une seconde sur l'âge de l'univers, qui permet de faire donc des choses extraordinaires, par exemple de prévoir des tremblements de terre, parce qu'un déplacement de masse va faire que le temps que mesurent ces horloges va légèrement changer, et on va pouvoir peut-être utiliser ça dans ce sens. Ça, ce sont des choses qui sont relativement dans le futur proche. Maintenant, dans le futur lointain, c'est très difficile d'extrapoler. Il y aura peut-être un jour un ordinateur quantique qui sera peut-être spécialisé pour un certain type de calcul, ou peut-être des choses qui sont complètement inattendues. Lorsque les lasers sont arrivés il y a 60 ans, personne ne prévoyait ce qu'on en ferait 30, 40 ou 50 ans plus tard. Lorsqu'on a découvert les ondes radio au début du XXe siècle, personne n'imaginait qu'un jour elles seraient utilisées avec nos téléphones portables ou le GPS pour faire tout ce qu'on fait actuellement.
Merci beaucoup. Serge Haroche, prix Nobel de physique. La lumière révélée de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique chez Odile Jacob. Merci.
Merci. Europe Midi, Patrick Cohen.
Le 13h de Christophe Lamarre à suivre et la France bouge. Bonne journée.